Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute cinéma. Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Toundoy, Lucie Como, Camille André et Joséphine Dumoulin. Côté technique, à la coordination, Rémi Gouriou, à la prise de son, Emmanuel Morse-Duncan, à la sono, Sébastien Huel. La réalisation, elle, est assurée par Alexandre Fougeron. Ça commence bien, le chat dans la gorge, c'est la fraîcheur du Salon du Livre où nous sommes installés ce soir encore en direct, Salon Livre Paris, et à mes côtés Florence Colombani et Philippe Azori pour parler ensemble de textes critiques de Jacques Rivette chez Post Édition, des écrits complets d'André Bazin aux éditions Macula, de trois essais sur Twin Peaks de Pacôme Thielman au PUF, et puis le coup de cœur de Florence Colombani pour Mitchum par Weber, publié chez La Rabia. En fin d'émission, nous vous ferons gagner des cadeaux grâce au jeu de la dispute. Ce soir, des invitations pour découvrir les deux films de la compétition internationale du cinéma du réel, David and the Kingdom de Brian Pacioni et Woodrow Travers, et La Strada per la Montagne de Nicole Rubini. Des films à voir samedi 23 mars à 16h50 au Centre Pompidou à Paris. Et nous ouvrons cette dispute sans Julien Gester, qui était prévu avec nous ce soir, mais qui nous a fait faux bond. Je crois qu'il a eu peur d'affronter le public nombreux du Salon du Livre, ce qui fait rire Philippe Azori tout de suite.
Tout m'amuse, vous le savez bien.
Florence Colombani aussi, ça vous amuse.
Il a peut-être eu peur d'André Bazin, surtout,
ah,
et de ses très nombreuses pages de considérations sur le cinéma.
Alors, personne n'est venu avec le livre, on en parlera tout à l'heure, mais on va commencer avec l'édition des textes critiques de Jacques Rivette. Chez Post Édition, c'est une édition qui a été établie par Miguel Armas et Luc Chessel. C'est la toute première à proposer l'intégrale des textes critiques de Jacques Rivette, paru dans la Gazette du cinéma, Art, les Cahiers du cinéma, mais aussi des inédits qui vont de 1948 à 1965. Ces textes, j'ai cité trois revues, mais en fait, le premier texte du volume a paru dans le bulletin du Ciné-Club du Quartier Latin en mars 1950, le dernier texte publié dans les Cahiers du cinéma date d'octobre 69. Entre-temps, Jacques Rivette avait déjà réalisé 4 courts-métrages, 3 longs-métrages entre 1950 aussi et 1968, date de la sortie de L'Amour fou. Suivront notamment dans sa filmographie Céline et Julie vont en bateau, Le Pont du Nord, L'Amour par terre, La Bande des Quatre, La Belle Noiseuse, Secret Défense. Quelques autres encore, son dernier film 36 vues du Pic Saint-Loup est sorti en 2009. Jacques Rivette, lui, est mort le 29 janvier 2016. On va l'écouter ici au micro de Serge Danet dans l'émission Microfilm sur France Culture en 1989. Il parlait du film Psychose d'Alfred Hitchcock.
Au départ d'un film, pour moi, je sais que je peux partir, à tort ou à raison, dans un tournage, quand j'ai une sorte de schéma mental, et là effectivement le schéma mental c'était les deux pôles qui donc ne se rencontraient jamais puisque l'un est positif, l'autre négatif, d'ailleurs on ne sait pas, chacun d'eux
non,
est positif
pas, oui.
Et négatif, à chaque fois ça s'échange, les électricités s'échangent, le cinéma fonctionne sur des champs magnétiques, je crois qu'en effet quand on fait des films c'est ce qu'on essaye au départ d'avoir, et des cinéastes aussi différents que Hitchcock ou Rossellini, oui, la métaphore fonctionne parce que un film, c'est de l'électricité.
Un film, c'est de l'électricité, dit Jacques Rivette. Ça pourrait marcher pour David Lynch, mais ça, on en parlera un tout petit peu plus tard. Florence Colombani, devant ce volume des textes critiques de Jacques Rivette, voilà, comment est-ce que vous en êtes emparée? Comment est-ce que vous l'avez lu? Qu'est-ce que vous y avez cherché, trouvé?
Je trouve que le défi de lire les textes de Jacques Rivette, c'est de tomber d'abord sur cette phrase dans son texte, dans un de ses textes sur Ingmar Bergman, il y en a plusieurs, où il dit « La seule critique d'un film ne peut être qu'un autre film ». Et donc on comprend bien que d'emblée, dès le début de son activité de critique, il se pose quand même en cinéaste. Il a une identité de cinéaste qui existe déjà, avant même qu'il ait réalisé un film. Et il a un regard sur le cinéma qui passe par le cinéma. Et donc, quel rapport avoir avec ces textes, puisque lui-même ne cesse d'attirer notre attention sur la difficulté d'utiliser des mots pour parler du cinéma. Il a d'ailleurs une réflexion qui recoupe souvent celle d'André Bazin, même si elles sont assez distinctes, on en parlera plus tard. Mais donc on est dans cette interrogation-là quand on aborde les textes, c'est qu'est-ce qu'il va nous dire par les mots, puisque lui-même les trouve lui faisant défaut souvent. Eh bien, il nous dit beaucoup. Alors déjà, il faut dire que c'est un grand styliste que Jacques Rivette. Il a un style très limpide, très fort, toujours un mot précis. On retrouve beaucoup des positions classiques de la Nouvelle Vague. Hein. Ça fonctionne un peu comme un petit précis de l'histoire théorique de la Nouvelle Vague, avec évidemment beaucoup de textes sur Howard Hawks, beaucoup de Hitchcock, un éloge plus surprenant du cinéma soviétique,
ouais.
Mais en fait une obsession pour une forme de réalisme ou de rapport au réel que, par esprit de contradiction, il retrouve chez Hitchcock, il retrouve chez Preminger, il retrouve chez des grands cinéastes hollywoodiens. J'ai trouvé aussi, comme ça, au gré de la lecture, un passage assez amusant où Rivette dit tout son dégoût pour un film qui s'appelle Papa Longue Jambe, qui est un des films fameux de Leslie Caron, où il fustige ses relations entre des tendrons et des quinquagénaires. Donc il y a une espèce de regard par moment qui paraît étonnamment moderne. Et puis ça se finit par deux entretiens avec Hélène Frappa qui sont extrêmement denses et passionnants.
Et longs.
Et non, ouais. Et qui sont des entretiens, alors pour le coup, avec Rivette, cinéaste, hein, à l'occasion de la sortie de deux films, mais où elle l'interroge sur ses positions théoriques, son regard sur le cinéma, et on voit que il garde ce même lien à Hawks et à certains grands cinéastes fondamentaux, même à la fin de sa carrière.
Philippe Azoré, premier regard sur cet ensemble de textes critiques dans la rumeur parfois un peu inquiétante du Salon du Livre.
Oui, c'est
on entend parfois des cris.
Si vous me voyez, je suis un peu tétanisé, mais je vais y arriver, il n'y a pas de souci. J'attendais beaucoup, beaucoup, beaucoup ce recueil de textes critiques de Jacques Rivette, qui est une édition établie par Miguel Armas et Luc Chessel. Je sais qu'ils ont travaillé au moins 2 à 3 ans sur cette édition. Une partie du temps de ces 3 années a été investie à convaincre la veuve de Jacques Rivette d'une possibilité de pouvoir publier ces textes. Car Rivette s'était jusqu'ici opposé, en tout cas de son vivant. Rivette s'était opposé dans des termes qui étaient assez confus, qui n'étaient pas très très clairs. Il s'était opposé par exemple à ce que ces textes soient réédités par les Cahiers du cinéma et qu'ils rentrent, comme ça avait pu être le cas pour les textes critiques de Godard ou les textes critiques de François Truffaut, par exemple, ou Chabrol ou Romer, dans un sorte de panthéon de la critique. Ce qu'avait toujours dit Jacques Rivette, c'est que ces textes relevaient d'œuvres de jeunesse, et que d'une certaine manière, il l'avait dit un peu sur le tard, il ne s'opposerait pas à leur réédition si cette réédition était faite par des gens jeunes. Bon, il se trouve que Miguel Armas et Luc Chessel avaient, entre le moment où ça a été commencé, où c'est terminé, entre 24 et 26 ans. Ce sont donc des gens très très jeunes. Ce sont des très très jeunes cinéphiles avec une jeune maison d'édition, il faut la citer. C'est l'édition post-édition.
C'est déjà fait, ce sera refait.
Refait, ils sont là depuis 3 ans avec un boulot assez extraordinaire. Comment aujourd'hui on peut par contre nous recevoir ces textes qui ont été écrits effectivement par un très très jeune homme, un très très jeune cinéphile, entre 1951 je pense pour le tout premier, 50 et les derniers, c'est 68, c'est-à-dire 18 ans. 18 ans c'est à peu près aussi la durée durant laquelle a travaillé André Bazin. Bazin a produit, on le dira plus tard, je crois que c'est 2500, 2700 textes, quelque chose, c'est assez monumental. Rivette a beaucoup moins écrit. Il a même assez peu écrit, finalement, contrairement à ce que moi-même je pouvais imaginer.
Oui, c'est pas un volume très épais, celui-là.
Non, c'est pas un volume très épais, c'est un volume plutôt, enfin voilà, il y a de l'espace, on respire, c'est pas une édition condensée, compacte. Il a finalement moins écrit qu'on ne le croyait, mais il a écrit ferme. Il y a une fermeté, et Florence le disait, enfin, la première chose qui surprend, la première chose qui même nous agrippe lorsqu'on lit le texte critique de Jacques Rivette, c'est le styliste. C'est une écriture qui est très très loin même de la critique telle qu'elle se pratique aujourd'hui, même dans les sphères les plus littéraires, même ce qui s'écrit par exemple dans Trafic ou les Cahiers, des choses comme ça. Il y a vraiment une fermeté qui est surprenante de la part d'un si jeune homme, quelque chose de précoce, enfin voilà, presque inquiétant, qui est totalement annoncé de façon programmatique dans un tout premier texte. Son tout premier texte s'intitule Nous ne sommes plus innocents. Comment c'est, je sais pas quel âge il a quand il fait ça. Il doit avoir 20 ans.
20 ans, 20 ans
21
ouais.
ans. Enfin, ouais. C'est des gens très très jeunes, hein, les gens qui écrivent à cet âge-là. Nous ne sommes plus innocents. Alors, là, pas de chance, le texte est pas très bon. C'est son premier texte, et c'est le plus faible de tout le volume. Tout le reste est éblouissant, mais celui-là est encore pas très très bon. Mais nous ne sommes plus innocents. C'est-à-dire qu'il pose l'idée là, qu'il vient, on en reparlera plus tard, enfant d'une critique de cinéma, ou d'un critique de cinéma plutôt, qui est André Bazin. D'une pensée basinienne. D'une certaine manière, la pensée basinienne, on la définira plus tard, mais elle est quand même essentiellement organisée autour de l'ontologie du réel. Et chez Rivette, il y a un côté presque plus basinien que le roi. C'est-à-dire que cette position basinienne sur le réel, elle va être, ou de rencontre avec le réel, ou du cinéma rencontrant le réel, elle va être poussée jusqu'à sa dernière extrémité. Et très très tôt. Et c'est ça aussi qui est purement extraordinaire quand on relit ces textes. Florence le soulignait, on peut aller dans ce sens, il y a des textes, dès ses quatrième, cinquième, sixième textes, c'est-à-dire dès la première année de son activité critique, il y a le programme de Jacques Rivette, non seulement cinéaste, mais l'économie de Jacques Rivette cinéaste, qui est très particulière. C'est-à-dire dire, par exemple, que le scénario, ça ne sert à rien. Ce qui aujourd'hui, aujourd'hui, tout le monde sait à peu près que le scénario ne sert à rien. Je pense qu'aujourd'hui, aucun jeune cinéaste, même dans les plus radicaux, n'oserait s'aventurer à dire que le scénario ne sert à rien parce que le scénario lui permet de pouvoir tourner, au moins d'avoir de l'argent. Dans le Rivette des années 50, dans un cinéma qui est en France, mais même aux États-Unis, c'est les studios, et en France, c'est une sorte de corporatisme un peu vieillot et poussiéreux, affirmer que le scénario, ce n'est rien, c'est déjà délirant. Mais quand on sait que finalement, comment travaillait Rivette sur la fin? Rivette faisait un traitement, tout au plus, et ensuite, depuis les années 70, de 70 jusqu'à, quand je dis sur la fin, c'est plus que la fin, c'est
les 35 dernières années.
C'est quand même le corpus, disons même depuis L'amour fou, depuis 68, ouais. jusqu'à ses derniers films en 2010. Rivette a toujours travaillé de la sorte, il part avec un canevas, il part avec une idée, et les dialogues seront écrits au jour le jour par une équipe de dialoguistes et de scénaristes. Il y a eu Jérôme Prieur, il y a eu Pascal Bonitzer, il y a eu plein de gens comme ça, qui travaillaient dans un coin, dans une chambre, à écrire des dialogues, alors que les acteurs jouaient la scène écrite la veille. C'est-à-dire pour qu'il y ait le maximum de rencontres avec ce qu'est le tournage. Et ce qui a été d'ailleurs le précepte de Rivette, en fait, que tout film est un documentaire sur son propre tournage. Et c'est essentiel pour comprendre son rapport à l'ouverture.
Florence Colombani.
Oui, c'est d'ailleurs assez frappant, toujours dans ses entretiens qui finissent le volume avec Hélène Trappa, il questionne le primat à la mise en scène qui a été accordé par lui et par les Godard, Truffaut, les grands critiques de la Nouvelle Vague. Il remet ça en cause, il dit on a trop insisté là-dessus, on a exagéré, on a eu tort. Et en même temps, une fois qu'il dit ça, il bute parce qu'il ne peut pas remplacer la notion de mise en scène par autre chose, puisqu'il ne croit pas au scénario, puisqu'il ne croit pas finalement à autre chose que la mise en scène. C'est simplement le mystère de cette notion qu'il interroge et auquel il nous renvoie. Et on a l'impression que les certitudes qu'il avait plus jeunes ont disparu avec le temps, avec la pratique du cinéma. Et finalement, quoi de plus rivettien que cette traversée vers un mystère et vers une opacité toujours confirmée.
Parce que ce qui pointe aussi dans ces textes, et sans doute d'ailleurs dans les premiers textes, c'est le danger du dogmatisme. Et c'est la pratique, finalement, qui va l'en éloigner, Philippe Azoury.
Oui, quand je dis qu'il écrivait ferme, il y a une écriture de fer et il y a un côté très maître des lois. Un côté moral, c'est-à-dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Qui d'ailleurs, qui est quelque chose qui m'est de moins en moins, et j'ai dû être un jeune critique un peu comme ça, je me relis pas, heureusement. Mais c'est quelque chose.
On parlera de votre intégrale des textes qui dans une autre fois.
Dans 155 ans, mon Dieu, je serais plus là, heureusement. Mais non, je veux dire, voilà, par essence, le jeune critique est toujours un peu.
Sait ce qui est bien et ce qui n'est pas bien.
Il sait ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, aux yeux du monde. Et en vieillissant, il se radoucit. Je suis moins sûr quand Florence dit que quelque chose à la pratique, c'est émoussé de la croyance de Rivette. Évidemment, dans la mise en scène, oui, il lui-même en parle. Il n'a jamais su, je crois que la préface de Luc Chessel le souligne, il n'a jamais su par quoi le remplacer. Il continuait à mettre mise en scène. Ouais. Il s'est jamais prétendu comme réalisateur, mais mise en scène Jacques Rivette à chacun de ses génériques. Mais je pense que ça, on en reparlera avec Bazin. Enfin, il y a ce terme qui est embarrassant, qui est le réalisme, la réalité, le réel. Chose que Lacan a quand même nous a déjà appris à quel point il était ombragé, ce réel-là. Et que ce réel-là, chez Bazin, comme chez Jacques Rivette, il est constitué d'un secret et qu'il y a malgré tout dans l'idée de la mise en scène, l'idée d'un dispositif qui allait à la fois, comme la métaphore de la caméra documentaire chez Bazin, enfin, du cinéaste animalier, mais enfin, qui allait, un dispositif qui allait capturer quelque chose d'un secret, qui allait se révéler. Donc je pense pas au final qu'il y ait un assouplissement chez Rivette dans sa façon de d'intérioriser la mise en scène ou au contraire enfin de la confronter à un réel qui forcément on sait bien que les films sont faits à 90% d'emmerdement par rapport à ce qui a été prévu au scénario, que la rue elle est jamais éclairée comme on aurait voulu, qu'il y a toujours quelqu'un qui a finalement pas garé sa voiture et qu'on peut pas déplacer, que l'acteur ne sait pas, et que ces choses-là, par contre, il arrive à les accueillir. Mais la morale, parce qu'un moraliste, quand même le rival critique est un grand moraliste, la morale elle change pas tant que ça, j'ai l'impression. Je sais pas.
Mais c'est vrai qu'à regarder les films de Jacques Rivette, vous disiez que chaque film est un documentaire sur son propre tournage. Mais je me souviens de, notamment dans les films, dans les derniers films, Secret Défense, avec Sandrine Bonner. Alors, on pourrait dire qu'il y a dû avoir un scénario, puisqu'il y a une histoire d'espionnage, a priori.
Il y a un canevas,
mais sauf que le souvenir le plus vif de ce film, voilà, c'est Sandrine Bonner dans, je crois que c'était un métro, tu vois.
C'est un train parce qu'elle va à Gare d'Austerlitz
sans métro et elle prend encore un train après.
C'est un train de banlieue.
Voilà, qu'est-ce que c'est que ce corps de cette femme dans cette foule, dans ce lieu-là? Et donc, le pont se fait avec ces textes. Florence Lombani.
C'est d'autant plus frappant dans son Jeanne d'Arc alors là, on est en plus sur un sujet qui a quand même été traité.
Sandrine Bonner encore.
Avec Sandrine Bonner et un sujet qui a été traité par les cinéastes qui sont les idoles de Rivette. Donc, lui qui disait qu'une critique ne pouvait être faite que par un autre film, on a l'impression que là, il s'est livré vraiment à cet exercice. Et le Jeanne d'Arc qui est pourtant en costume, qui aurait tout pour être un film. Qui fonctionne au premier degré, ne fonctionne aussi qu'en miroir et qu'en documentant son propre tournage.
Un mot encore, Philippe Azoury, sur le texte de Jacques Rivette.
De laisser la place à Rivette. J'étais vraiment saisi en lisant les textes. L'un de ses tout premiers textes, ça doit faire 6 mois que Rivette est critique, pigiste à cette époque-là. C'est un texte sur Orphée, Jean Cocteau, qui s'appelle « Les malheurs d'Orphée ». Quand on lit ça, je me dis, j'adorerais recevoir ça d'un jeune pigiste de 21-22 ans. Je vous lis juste un extrait, le texte fait 4-5 pages. Les méfaits de la virtuosité ont ainsi gâté naguère le Macbeth de Wells, jadis l'octobre d'Eisenstein, film inquiétant où l'on voit le cinéma se détruire lui-même et, par refus de confiance en son objet, le tuer par excès. Peut-être, pour mieux supprimer les machines, faudra-t-il faire avec elles bon ménage et les faire entrer dans le jeu. Tout art est d'artifice, acceptons-le d'emblée pour l'en purifier. C'est très basignon, on en reparlera tout à l'heure.
On va en parler dans un instant. Puis une chose simple aussi à dire pour le lecteur, mais pas pour les auteurs, c'est qu'il y a un index des films cités, des noms cités dans les textes de Rivette. C'est une formidable façon aussi de parcourir le livre. On peut commencer par l'index et dire, tiens, qu'est-ce qu'il a dit de tel auteur, de tel cinéaste, de tel film. C'est vrai que tous les livres n'ont pas la chance d'avoir des index. Celui-là, il est là et il est bien fait. Il faut féliciter Post-Édition. Pour cette édition des textes critiques de Jacques Rivette. Beau travail, comme dirait l'autre. À suivre dans la dispute, André Bazin, Paco Mtielman et Robert Mitchum.
France Culture. La dispute. La porte.
Suite de cette dispute consacrée au livre sur le cinéma pour cette émission en direct et en public du Salon Livre Paris, pour parler à présent donc d'une autre intégrale monumentale, celle des écrits complets d'André Bazin, cette fois c'est aux éditions Macula, l'édition établie, annotée, présentée par Hervé Joubert-Laurencin avec la collaboration de Pierre-Eugène et Gaspard Nectou. Ça prend la forme d'un coffret volumineux dans lequel on trouve deux gros livres. Totalise 2848 pages. André Bazin, donc l'un des fondateurs des Cahiers du cinéma en 1951, on sait sans doute qu'il a profondément influencé les cinéastes de la Nouvelle Vague. On entendra tout à l'heure peut-être le générique du Mépris de Jean-Luc Godard. Le livre regroupe les 2700 textes que Bazin publia entre décembre 42 et novembre 58, ça fait même pas 16 ans. Le dernier texte, quelques jours avant sa mort, il avait tout juste 40 ans. On verra que si Bazin a beaucoup, beaucoup écrit sur le cinéma, il s'est intéressé aussi très tôt à la télévision, qu'il a regardé avec sérieux. Rappelons aussi qu'après avoir créé des ciné-clubs, non seulement en France, mais dans d'autres pays, puis dans des usines, et puis dans des prisons, il a écrit dans L'Écran français, dans Le Parisien libéré, dans Esprit. Il a rédigé aussi des monographies, Wells, Renoir, Chaplin. Il participe à la création de radio, cinéma, télévision, et puis donc des cahiers du cinéma. On va écouter, là aussi, André Bazin, à la radiodiffusion française, le 20 septembre 1948.
Les arts, le cinéma est le seul où le problème du changement et surtout du divorce entre l'art et le peuple et les masses ne se pose pas de la même façon. En effet, le cinéma est par essence matériel, technique, esthétique même, un art des masses et du peuple. Il ne peut donc pas être question d'un cinéma qui ne plairait pas aux masses, pour cette bonne raison que s'il ne plaisait pas aux masses, il n'y aurait plus de cinéma. Il n'y a de film que s'il plaît aux masses. Il n'y a pas de producteur assez fou pour faire un film qui ne reçoive pas l'agrément des masses.
Moi, je pourrais même vous faire réagir sur cette phrase d'André Bazin, quand même. Oui, hein, Philippe Azoury. Vous voulez répondre à André ?
Non, oui, j'oserais pas.
Non, il y a pas de film.
Parce que j'avais jamais entendu sa voix. Je suis super ému. Il y a la maigreur de son corps, les quelques images que l'on possède de Bazin. C'est un type très très maigre. Il est mort, je sais pas, leucémie, mais il a été très longtemps tuberculeux. Enfin, c'est quelqu'un qui avait un problème de santé énorme. Et j'entends dans le chevrotement de sa voix, mais c'est quelqu'un aussi qui a raté, je pense, les concours pour être professeur parce qu'il s'est mis à bégayer au pire moment.
Voilà, il a 30 ans quand on l'entend.
Il a 30 ans et c'est la voix, c'est... Bon, c'est pas Artaud, mais c'est pas quelque chose quand même de ça. Et puis, il y a ce côté, enfin, quand il dit, oui, enfin, il n'y a pas de cinéma sans public. Enfin, le cinéma sans public, ça n'existe pas. Et ça dit bien, finalement, le trajet. On disait 18 ans, quoi, il y a 16 ans, 2681 textes. Je pense que c'est de l'ordre de l'éditeur. Ce que je l'ai vu m'a expliqué que, en moyenne, ça faisait quasiment un texte tous les deux jours. Ce qui est, finalement, enfin, ce qui est, quand on écrit quotidiennement sur le cinéma, on arrive à ces chiffres-là. Je pense que si quelqu'un devait aujourd'hui faire l'intégralité des écrits, je sais pas, de Gérard Lefort à Libération, où Gérard surécrivait jusqu'à 3-4 articles par jour, on devrait arriver à des sommes énormes. D'années, on a vu que lorsque POL a réuni les écrits d'années, c'est 4 à 5 volumes assez massifs. Mais ce que ça veut dire quoi, écrire tous les jours sur le cinéma? 16 ans de sa vie, parce qu'un critique, c'est d'années, justement, sur Bazin, qui disait, un critique, en général, casse la baraque, puis il casse assez vite les pieds, mais surtout il lasse et il passe. C'est-à-dire qu'ils font 10 ans et puis souvent ils passent à autre chose. Et les enfants de Bazin sont les premiers, Rivette en premier, sont passés à la mise en scène. Lui non, lui il a écrit. Il a écrit pendant 16 ans tous les jours, un texte tous les deux jours, il a écrit partout, il a parlé autant qu'écrit. On a le nombre de débats de ciné-club. C'est-à-dire c'est une vie à convaincre, c'est une vie à donner à une France qui, entre, bon, 43, la France a d'autres problèmes, mais à partir, disons, de 45 jusqu'à sa mort en 58, 8. Au moment où le tournage des 400 coups et d'Abutsu vont se mettre en place, c'est-à-dire qu'il ne voit pas ses enfants passer à l'acte, il ne voit pas Godard, il ne voit pas Chabrol, il ne voit pas Rivette,
il a vu le beau Serge quand même.
Si, il a vu le beau Serge, oui, c'est ça. Chabrol avait été le premier. Il ne voit pas l'implosion, la naissance de la nouvelle vague qu'il a portée. Mais pendant ces 16 ans, il parle. Il parle, il écrit, il convainc. Il y a une sorte de saint bénédictin, enfin terrible, chez Bazin, qui va porter la parole et d'une parole qui est obsédée par une idée fixe, qui est le réalisme ontologique. Kézako,
voilà, explication de texte.
Mais de quoi est fait ce réalisme ontologique? Il est fait de préceptes qu'on a connus, parce que moi j'appartiens à une génération, moi J'ai même dû, dans un moment d'ivrognerie absolue, me prétendre basinien, mais comme on se prétend lacanien sans avoir. En fait, on connaissait quoi? On lisait qu'est-ce que le cinéma? Qu'est-ce que le cinéma? Il y avait une édition en 4 volumes chez Segers dans les années 70. Dans le dernier tome avait été d'ailleurs organisé, enfin les textes ont été rangés, organisés par Jacques Rivette, on le trouve là. Mais surtout, nous, on a lu l'édition compacte en un volume, allégé, je pense qu'il y avait plus que 40% des textes, avec des textes qui sont magnifiques, d'une pensée incroyable, d'une fermeté, d'un calme délirant. Enfin, vraiment, on se dit, il y a un théoricien qui écrivait tous les jours. Quand on lit, au contraire, 2000 pages d'un coup de Bazin, ben non, il n'y a pas un théoricien qui écrit tout. Il n'y a pas un théoricien Bazin tous les jours. Il y a un journaliste Bazin tous les jours. Et ça, c'est presque la bonne nouvelle du premier, du livre. C'est-à-dire qu'on se dit 2800 pages, ou je sais pas, ou quoi, ou qu'est-ce de théorie. En une semaine, je vais pas y arriver. J'ai pas tout lu non plus, sûr. Je vais pas mentir.
Non.
Mais il y a un truc qui est extraordinaire, c'est quand même, c'est qu'on le, il raconte, par exemple, un festival de Venise, je sais plus lequel, et il raconte les fêtes. Oui, Bazin allait aux fêtes.
Oui.
Comme moi. Bazin allait aux fêtes.
Et quand il parle de Cannes, il parle du critique sur la plage qui n'arrive pas à bronzer.
Voilà. Et il dit ouf, comme ça, ouf, c'est fini. Et il commence le papier par un ouf. Et là, je me dis, mais c'est pas le même Bazin que le Bazin de Montage Interdit, le Bazin un peu d'Ox, justement, le Bazin, que Rivette nous a présenté ensuite comme étant quelqu'un qui avait les clés de la loi. Ou que Romère, ensuite, on y reviendra avec Florent, j'imagine, enfin, Romère a essayé de nous raconter un saint Bazin. Intouchable, chrétien, presque auréolé d'un miracle. Là, c'est un Bazin au jour le jour. Moi, j'adore le journaliste. Il invente des formats qui n'existaient pas dans la critique et qu'on applique toujours aujourd'hui. Bah, le compte rendu de festival, le papier que tu fais très long pour les cahiers de façon explicative, puis tu vas faire le même papier, mais pas du tout pour le même lectorat.
Pour le Parisien.
Pour le Parisien Libéré ou pour France Observateur qui était dans celle du Nouvel Obs. Et là, tu y mets un peu plus de forme et puis tu as les comptes rendus de festival, les interviews, les interventions. Et on se dit, ben oui, mais ce type pratiqué au jour le jour et c'est un critique incroyablement moderne.
André Bazin par Florence Colombani à présent.
Je pense que ce que disait Philippe, c'est aussi lié à cette archive qu'on a entendue où il parle de l'importance du public et du cinéma comme un art de masse. C'est que Bazin écrit avec le souci du lecteur, il écrit avec le souci de la pédagogie. Donc c'est un théoricien finalement assez accessible parce que il pense à se faire comprendre, ce qui finalement n'est pas si fréquent. et il a aussi le goût de ce qui peut être populaire. Et donc il a ce goût dans les genres de films qu'il aborde. J'ai été assez frappée à un moment dans un texte sur le western où il fait notamment l'éloge d'Anthony Mann. Par le parallèle qu'il fait entre le western américain et la chanson de geste. Rapprochement qui d'ailleurs attire l'œil sur sa grande capacité à utiliser la littérature, la peinture ou le théâtre pour faire comprendre le cinéma sans jamais tomber dans des raccourcis ou des identifications, mais au contraire, plutôt un souci toujours d'utiliser une forme d'intertextualité, de référence culturelle qui éclaire ce que fait le cinéaste et toujours avec en tête la spécificité esthétique du cinéma. Mais donc il a cette capacité à nous communiquer son goût pour les films et sa vision du cinéma. Et Hervé Joubert-Laurencin finalement se détache de ce terme d'ontologie du réel qui est en effet la formule qu'on utilise toujours associée à Bazin. Il parle de réel, plutôt de réalisme fondamental. Enfin, ce qu'il veut nous dire au fond, c'est que le cinéma, c'est l'outil par excellence de l'enregistrement du réel et c'est finalement quelque chose qu'on comprend tous instinctivement sans avoir besoin de passer par des formules qui peuvent faire peur et qui peuvent éloigner. Et donc, toujours sur ce plaisir qu'on peut avoir à découvrir ce Bazin-là, ce Bazin que nous présentent ces deux volumes, il y a aussi des pages très poétiques sur l'enfance. Alors, il y a de très belles pages sur la neige dans Citizen Kane ou dans La splendeur des Amberson. Il parle aussi magnifiquement du suicide de l'enfant dans Allemagne année zéro. Il y a une sensibilité dans son rapport au film qui m'a beaucoup touchée.
Mais il n'a pas non plus, pour le coup, une politique des auteurs, parce qu'il peut descendre un Wells et dire que le monde ne sera plus le même après les Amberson. On va en reparler. Mais il y a aussi, pour moi, comme pour beaucoup, beaucoup de gens, la première fois que j'ai entendu parler d'André Bazin, c'était là.
Alberto Moravia. Il y a Brigitte Bardot et Michel Piccoli. aussi Jacques Palance et Georges Jamol. Et Fritz Lang. Les prises de vue sont de Raoul Coutard. Georges Delerue a écrit la musique. Et le son a été enregistré par William Sivel. Le montage est d'Agnès Guillemot. Philippe Dussart s'est occupé de la régie avec Carlo Lastricati. C'est un film de Jean-Luc Godard. Il est tourné en scope et tiré en couleur par GTC à Joinville. Il a été produit par Georges de Beauregard et Carlo Ponti pour les sociétés Rome Paris Film, Concordia, Compagnia Cinematographica Champion à Rome. Le cinéma, disait André Bazin, substitue à notre regard un monde qui s'accorde à nos désirs. Mépris et l'histoire de ce monde.
André Bazin. Philippe Azoury.
C'est presque la conclusion du livre de Bacom Tillman sur Twin Peaks, mais ça on y reviendra. Mais à force de lire les trois livres en même temps, je pense que...
Mais c'est bien parce que Bacom Tillman aime beaucoup Jacques Rivette et il le cite.
Il le cite
aussi.
C'est pour ça que
tout ça se recoupe, c'est très bien.
Un côté on pourrait faire, vraiment un côté à la Derrida. Enfin, moi j'avais l'impression de sauter d'une page d'un livre à l'autre. Enfin, tout ça a fini par se confondre. Mais d'ailleurs, enfin, ce que je vais peut-être dire est né aussi peut-être d'un éclairage Bacom Tillman sur Bazin en passant par Rivette. J'y viens.
La synthèse de l'émission.
J'y viens. La dernière fois que, enfin. C'est terrible ce qui s'est passé avec Bazin, parce que Bazin a donc dominé la critique de son vivant. Ensuite, le cinéma qui est né, qui est devenu le cinéma de la Nouvelle Vague, dans la continuité du néoréalisme, a appliqué ou poussé Bazin dans la limite de sa représentation. Puis Bazin a été lu très près. Bazin a été d'abord un peu instrumentalisé, et ça là-dessus, Hervé Joubert-Laurencin, la longue préface d'Hervé Joubert-Laurencin le raconte très très bien, par Romère, qui a voulu en faire un chrétien, un catho très droit comme ça. C'est plus compliqué, il y a eu du flirt avec le PC, il y a, je crois, plutôt l'idée d'un sorte de militant comme ça, de quasi-prêtre ouvrier, enfin de quelqu'un qui croit en l'homme, un humaniste. C'est plus compliqué que ce qu'a voulu en faire Romère à l'époque de son opposition. Et puis, il y a le moment dans les années 70, notamment Pascal Bonitzer, au Cahier du cinéma, se met à s'intéresser très très près à la question des limites de la représentation, telles que les pose Bazin, parce que il y a la question du plan, il y a la question du montage, il y a la question de la durée, de la mise en scène, et que tout ça, finalement, a été cassé par une critique, notamment au Cahier, qui a revu Dziga Vertov, qui a revu Eisenstein, qui s'est payé le plus grand admirateur de Bazin et celui qui en a finalement cassé les préceptes, qui est Godard. Enfin, le cinéma godarien, qui est un cinéma cassé, mais qui est un cinéma qui continue à croire au réel. Qui pense que c'est en cassant, que ce n'est pas du tout montage interdit, c'est un merveilleux cadreur, un merveilleux monteur, surtout Godard. Et Bonitzer, dans les années 70, fait ça très bien. Et puis, la dernière fois, finalement, que Bazin est un peu discuté, pris très très au sérieux, c'est Rivet, c'est Deleuze, c'est l'image temps, l'image mouvement, l'image mouvement, l'image temps, les deux livres de Deleuze qui sortent en 84. Ça correspond avec la sortie de la bio d'André Bazin en 83 de Dudley Andrews, c'est-à-dire d'un coup, il y a un moment bazinien, et puis plus rien. Enfin, depuis, voilà, il y a des gens comme moi qui l'ont un peu lu dans les années 90 parce que la fac est dans, qui ont cru, puis qui ont moins cru, qui finalement ne l'ont plus jamais cité. Moi, je dois avouer, j'avais plus ouvert un livre de Bazin depuis une quinzaine d'années. J'ai honte parce que pourtant, dans mon cœur, je me dis, tiens, Bazin a raison. Oui, je pense que le cinéma, il est profondément réaliste par essence. Et quand je lisais la préface d'Hervé Joubert-Laurencin, que je trouve vraiment avec un boulot assez extraordinaire, on s'aperçoit d'où vient ce réalisme ontologique qui est l'obsession de Bazin. Mais Florence disait qu'effectivement, il fallait le revoir aujourd'hui. Il vient de ce que Hervé Joubert-Laurencin appelle un dépassement de l'art baroque. Effectivement, chaque fois que Bazin doit écrire sur la peinture, il pense que le cinéma prolonge la peinture, le remplace la peinture, ou tue la peinture d'une certaine manière, mais surtout, elle le débarrasse de l'hérésie baroque. Il écrit l'hérésie baroque. Mais en fait, c'est quand même plus compliqué que ça. Vous disiez, Arnaud, sur qui il écrit une monographie? Sur Wells. Le fan de Rossellini, l'homme qui nous dit montage interdit, pense d'abord Wells. C'est-à-dire, il pense la profondeur de champ chez Wells. Et d'ailleurs, c'est intéressant le revirement chez Wells, parce que Bazin rate complètement Citizen Kane. Il pense que c'est de la merde. Et puis les années passent et il s'aperçoit que bon, c'est quand même plus compliqué que ça. Et il demande Sartre de récupérer, parce qu'il dit « je peux pas réécrire, je peux pas me contredire, pas tout de suite ». Et il commande à Sartre un papier où Sartre va dire « Citizen Kane, c'est génial ». Dans l'histoire de la... Mais surtout, je pense que la passion de Bazin pour Wells, c'est que finalement, oui, enfin, son réalisme, il a toujours affaire à quelque chose qui est de l'ordre de l'art baroque. Il repose sur les cendres, mais sur un dialogue permanent fou, inavoué à plein d'endroits sur l'art baroque. C'est pour ça que je pense que lire le livre de Pacôme Tillemans sur Lynch, qui est le plus baroque de tous, il parle quand même du réel tous les deux, il parle du monde.
On parle que de
ça. Et il n'y a pas opposition. Les lire ensemble est assez intéressant en termes de montage.
On y va dans un instant. Dernier mot, Florence Cambani.
Oui, Philippe parlait de cette image de moine bénédictin, de cette question de la religion, ou de l'identité catho ou non de Bazin, etc. Je pense qu'il faut garder en tête, et peut-être que l'art baroque nous y amène, parce que c'est fondamentalement un art religieux, l'idée qu'il y a une dimension spirituelle chez Bazin qui est très forte, et que plus il insiste sur ce rapport au réel, et plus il suggère que le hors-champ est important, et que le hors-champ est porteur de spiritualité, et finalement c'est cette notion de présence, ce rapport au visage, ce rapport à l'acteur, qui domine beaucoup aussi de ces textes. Et on n'est pas si loin quelque part de Lévinas dans son rapport au visage et son amour pour Bergman me paraît assez révélateur de ça. Et donc je pense que il est très complexe. Tout ce qu'on peut dire sur lui, finalement le paradoxe. Enfin, on pourrait dire l'inverse. C'est les paradoxes fonctionnent très bien pour aborder sa pensée, ce qui prouve bien qu'il est temps de le relire.
Celui qui a le mieux parlé du paradoxe chez Bazin, c'est Narboni dans un texte qui est dans le Rivette, dans un dialogue dans les cahiers sur le montage, où il dit, finalement, il y a une contradiction chez Bazin, c'est qu'il y a une croyance en une ambiguïté du réel, et de l'autre côté, il y a un sens caché, il y a l'idée qu'il y a un sens caché dans le monde dont le cinéma va devenir le révélateur. Et que finalement, il croit dans le secret, il croit pas dans un réel complètement transparent, translucide, un verre d'eau éclairé. Il croit dans le secret. Ouais. C'est pour ça que finalement, c'est un grand Lynchien.
Oui, c'est ça, on arrive vers David Lynch d'assez évidente façon. En tout cas, aujourd'hui, grâce aux éditions Macula au travail d'Hervé Jouvert-Laurencin, on a les écrits complets d'André Bazin pour enfin, découvrir qui il était vraiment par ses écrits, en tout cas.
Growing up, I had two boogeymen. One was Dracula, but there was the other boogeyman, the flesh and bone one. Man was Mitchum.
Leaning, safe and secure from all alarm.
I bet you say that to all the girls.
Pas le pasteur Bazin qui passait sur son cheval, c'était l'horrible Robert Mitchum. Pourquoi Robert Mitchum? Parce que c'est l'un de votre coup de cœur, Florence Colombani, pour Mitchum par Weber. J'ai traduit le X, Mitchum X Weber, Mitchum par Weber aux éditions L'Arabia. De quoi s'agit-il? D'un très beau livre, me semble-t-il.
Un très beau livre qui accompagne la sortie d'un très beau film, un documentaire de Bruce Weber autour de Robert Mitchum, je dirais pas sûr, parce que on est loin de la biographie, on est plus dans un portrait impressionniste, une évocation de la virilité à travers la figure de Mitchum. Bruce Weber raconte que enfant, alors que ses parents étaient en instance de divorce, sa mère le prenait à la sortie de l'école et fonçait dans un bar où elle retrouvait son petit ami, et lui a été dans une sorte d'arrière-salle avec les quelques poivreaux qui devaient être dans ce bar à ce moment-là, je ne sais pas, et ces hommes qui s'occupaient de lui, qui lui faisaient la conversation, qui l'aidaient à faire ses devoirs. Ils lui évoquaient Robert Mitchum parce qu'ils avaient des grandes mains, parce qu'ils avaient des voix imbibées de whisky. Il dit whisky voices en anglais, ce qui est encore plus littéral. Et donc, il a un souvenir comme ça ému de ces hommes-là, et il dit que dans son travail de photographe, qui a été, comme on le sait, fertile et un travail beaucoup autour de la figure masculine, il a toujours recherché cette forme de ce Mitchum idéal. Il y a beaucoup de photos dans le livre. Alors il y a beaucoup de photos de Mitchum, mais il y a aussi d'autres photos, et notamment de Sean Penn, de Benicio del Toro, enfin des stars plus contemporaines, selon le goût de chacun, peuvent paraître de pâles imitations du modèle original ou au contraire de dignes héritiers. Mais en tout cas, le résultat de ce beau livre et de ces photos et de beaucoup de montages aussi de photos de films, c'est qu'on se rend compte de l'incroyable présence de Mitchum, cette ciné-génie formidable. Et il y a une double page qui m'a beaucoup frappée, où on le voit avec ses partenaires féminines. Et il a un peu toujours la même pose. Alors, il a le visage souvent collé dans le cou de l'actrice. Et il a les yeux mi-clos, hein, ces fameuses paupières un petit peu de chien battu qu'il avait. Il a l'air d'être bien, d'être presque sur le point de s'endormir. Et en même temps, il a cet air de je m'en foutisme extraordinaire qui le caractérisait dans sa personnalité à l'écran. Et qui a fait de lui un des plus grands méchants de l'histoire du cinéma dans La Nuit du Chasseur. Parce que, à la fois, il peut être terrifiant et en même temps, on sent qu'il pourrait aussi bien faire autre chose qu'être là en train de sévir. Il y a d'ailleurs cette image-là des yeux mi-clos évoque un souvenir de Jane Russell qui dit qu'il avait toujours l'air d'être sur le point de s'endormir, même en plein tournage. Voilà, un beau livre pour retrouver une grande icône hollywoodienne.
Mitchum par Weber, aux éditions L'Arabia.
France Culture, la dispute. Arne Laporte.
Le dernier livre à notre sommaire, donc 3 essais sur Twin Peaks de Pacôme Thielman aux Presses universitaires de France. En 2010, Pacôme Thielman a publié La main gauche de David Lynch, analyse érudite, fascinante de Twin Peaks, sur laquelle nous reviendrons sans doute, puisqu'on retrouve ce premier texte dans ce nouveau volume qui propose 2 autres essais sur le magnum opus lynchien, exégèse de la Black Lodge. Et enfin, La substance de ce monde, nourrit ce dernier texte par le visionnage de la saison 3.
Location sometimes becomes a character. There's a lot of holy places up here, a lot of sacred places. I can't put my finger on how I would describe it. It just touches something in the psyche. It's almost like being in a moving painting.
Essai sur Twin Peaks, c'est un petit volume, mais lui aussi très très dense, qui rassemble ces textes de Pacôme Thielman sur cette série et sur son retour, 25 ans après les deux premières saisons, cette saison 3 dont nous avons parlé pas mal de fois déjà dans la dispute. Je suis ravi d'avoir trouvé une occasion de plus de le faire grâce à Pacôme Thielman, que je lis toujours avec fascination. Et ce qui est formidable, c'est parmi les très très nombreuses occurrence dont on pourrait parler, c'est qu'il y a une phrase, ou un début de phrase qui revient souvent, c'est le sujet de Twin Peaks, virgule, c'est, et c'est jamais la même chose. Sauf que vers la fin, quand même, j'aime bien celle-ci, je vais commencer par là, le sujet de la saison 3 de Twin Peaks, c'est écrit-il là, c'est l'impossibilité de retourner à Twin Peaks. De façon plus générale, c'est l'impossibilité pour l'homme d'aujourd'hui de se réinstaller dans le monde, l'impossibilité de retrouver la nature, la communauté humaine, la vie authentique. Vous parlez de dimension politique, la question du réel, on est en plein dedans là encore, Philippe Azoury.
Pacôme Thielman n'a pas écrit pour rien, enfin n'a pas intitulé pour rien, c'est la troisième, c'est intervention, enfin le texte extrêmement inédit de ce livre, la substance, je la recèle un peu.
Rapprochez-vous.
Là je me rapproche, alors avec une, la substance de ce monde, enfin c'est vraiment, je pense que oui, il est, parce que Pacôme Thielman est tout baroque soit-il, lui aussi, même que Lynch, est persuadé qu'il y a un réalisme profond, enfin que s'il y a, d'ailleurs il le moi j'adore cette la troisième partie sur la mmh. sur, C'est peut-être le premier qui s'est débarrassé des questions de, on comprend rien, mais qu'est-ce qu'il fabrique Lynch, machin, tout ça, en disant tout simplement, mais regardez le tout début, le premier épisode de la troisième saison, et vous voyez la crise de 2008 sur les États-Unis. C'est-à-dire, s'il y a vraiment une série ou un film série ou soit un film monde ou une série monde ou quoi ou qu'est-ce qui a enregistré ce que sont en train de devenir les États-Unis depuis 2008, c'est bien Lynch, ce réaliste compliqué. Alors ensuite sur le livre de Pacom Tillman, moi je suis, vous disiez Arnaud, fasciné toujours. Moi j'ai eu très longtemps peur. Pas de Pacom Tillman lui-même, je le connais pas, mais de ce qu'écrivait Pacom Tillman, il y a, c'est-à-dire je vois très bien que ça peut complètement me happer. C'est tout ce que j'aime et je sais pas pourquoi. J'y vais un peu à tâtons. J'ai encore vu hier, j'étais à Bruxelles, je suis tombé sur. Il avait coordonné un livre sur les théories autour de la mort de Paul McCartney, des choses comme ça. Je me dis, ce type qui est à moitié français, moitié égyptien, un peu copte, tout ça. C'est tout ce qu'il me faut. Et je sais pas pourquoi. J'ai toujours un peu comme ça. Il y a ce côté un peu Zappa chez lui. Alors je me dis voilà, il y a toujours un peu trop. Et puis j'ai enfin peut-être trouvé mon pas comme petit mon livre. J'avais raté la première édition, la main gauche de David Lynch, Fargo, je crois, sortait pas, ou Léo Cher, je sais plus. En tout cas, j'avais raté ce livre-là. Là, j'ai plongé dans ces trois essais avec, je trouve en plus des constructions. Il y a tout Tillman dans ses délires, dans ses volutes, et en même temps des rythmiques différentes, des respirations différentes. Je dois avouer que je trouve le bouquin magnifique. Enfin, c'est absolument ce que j'attends aujourd'hui d'un livre sur le cinéma. J'avais aussi peur parce que Twin Peaks est un objet baroque et délirant. En même temps, est-ce qu'on a envie d'un récit froid, enfin qui sent le bolino froid et le calme face à Twin Peaks? Non, on a envie d'un livre miroir de Twin Peaks. Évidemment, des gens capables de produire un livre miroir sur Twin Peaks aujourd'hui en France, il n'y en a pas 25. Et pas comme Tillman est sans doute tout en haut, mais loin devant tout le monde, tout en haut de la liste, avec sa façon de ne pas expliquer, c'est ça qui est magnifique. Enfin, il s'est surtout pas pris les pieds dans le tapis de vouloir expliquer Twin Peaks. Non, il le regarde. Il le regarde. Il pense que Twin Peaks a modifié la réalité en rehaussant la qualité de notre regard. Et lui, l'amène avec la qualité et la hauteur de son regard à lui, c'est son savoir sur les gnostiques, sur Marvin Gaye.
Sur Dante.
Sur le Sycamore. Enfin, des choses comme ça qui...
Le Bhagavad Gita.
Toutes les 10 minutes, on peut dire c'est aberrant. Mais oui, mais c'est bien parce que c'est particulièrement que c'est aberrant, que c'est bien et que ça communique avec Lynch et que c'est toujours, ça semble s'emboîter naturellement dans la pensée de Lynch, comme s'il dialoguait avec Lynch avec ce livre-là. C'est assez éblouissant, quoi.
Florence Colombani, votre regard sur ces trois décès sur Twin Peaks de Pacom Tillman.
Oui, j'étais très frappée par le fait que, avec tous ces détours et toutes ces références surprenantes qu'il utilise, il finit par livrer une lecture non seulement de Twin Peaks, mais aussi de la trajectoire de Lynch cinéaste. Et de la cohérence de l'œuvre et de la façon dont il y a une rupture dans l'œuvre de Lynch qui se produit, dit-il, sans doute pendant le tournage de la première série Twin Peaks, puisqu'on passe d'une vision qu'il qualifie d'optimiste, mais qui est la vision de Blue Velvet, où en effet le personnage principal plonge dans un monde parallèle mais en revient, à des films comme Lost Highway ou Mulholland Drive, où les personnages qui plongent du côté obscur ne reviennent pas, ils sont détruits. Et finalement, c'est aussi ce qui arrive à l'agent Dale Cooper, et c'est ce que dira aussi la saison 3 de Twin Peaks. Donc il a une sorte de lecture globale, tout en donnant l'impression de prendre des chemins de traverse, de pas du tout nous parler de Lynch, de pas du tout nous parler de Twin Peaks. Il finit par donner une sorte de vision synthétique, ce qui est assez admirable. David Lynch, dans un livre d'entretien qui avait été publié avant la réalisation de cette ultime saison de Twin Peaks, avait dit « Twin Peaks existe toujours, enfin le monde de Twin Peaks existe toujours, mais il n'y a plus personne pour le filmer ». Et ce qu'il a fait, évidemment, lui, en réalisant la saison 3, c'est essayer de le ressusciter, puisque tout l'enjeu, c'est justement que c'est difficile de retourner à Twin Peaks. Mais pas comme tellement lui-même réussit à aller dans ce monde qui est parallèle. Il suffit de trouver la porte. Et il a trouvé la porte. Et on a un peu une impression de que c'est Alice au Pays des Merveilles. Il rentre dans un terrier, et il suit un labyrinthe et il nous y entraîne. C'est virtuose, mais c'est plus que ça. Ça va au cœur de ce qui fait le génie de Lynch.
Parce qu'à la fois, il parle du genre. Dans le premier texte, il dit ce que Twin Peaks invente, c'est le feuilleton qui doit impérativement être revu. Ça, c'est vraiment une donnée tout à fait essentielle. C'est-à-dire qu'une fois qu'on avait effectivement vu un épisode, il fallait l'avoir enregistré sous son magnétoscope à l'époque pour pouvoir essayer de comprendre et donc de suivre. Mais il parle aussi de Lynch. Le cinéma de David Lynch ne juge pas, ne condamne pas. Il dépeint la destruction des êtres et des choses dans ce monde et s'afflige de cette destruction. Je crois que c'est extrêmement important. Et puis, on parlait des références. Moi, il y en avait une, alors qu'il m'avait complètement échappé. Et il y revient beaucoup, et ça m'a passionné, parce que c'est un artiste qui m'intéresse, c'est Marcel Duchamp, extrêmement présent, que la vision du cadavre de Laura Palmer, c'est aussi celle que le visiteur de Étant donné, une des dernières œuvres majeures de Marcel Duchamp, qui regarde par la fente dans la palissade, peut voir cette jeune femme. Enfin, c'est tellement nourri, c'est le genre de livre où on commence à souligner une phrase, deux phrases, et puis finalement on arrête, parce qu'on soulignerait tout le livre, Philippe Azoré.
Moi, j'ai aussi beaucoup souligné, et là, effectivement, le rapprochement avec Duchamp et le Étant donné de Duchamp fait partie des grands, grands moments de ce livre-là. Tout comme, Florence le disait, le moment où il explique, ou pas comme Tillemant explique, qu'on est passé d'un optimisme chez Lynch, qui est une idée qui finalement qui ne naît chez personne, mais si, il a quand même raison, en expliquant que désormais, le cinéma lynchien, depuis la première saison de Twin Peaks, est pessimiste, parce que d'une certaine manière, on ne survit pas, ou en tout cas, on ne respire pas impunément sans avoir passé, en ayant passé 25 ans dans la Black Lodge. Et que tout ce que nous envoie, tous les signaux que nous envoie David Lynch depuis désormais le début des années 90, sont des signaux qui sont émis depuis la Black Lodge. Mais le génie de ce livre, et Florence le disait aussi, Pacôme a aussi trouvé la clé pour rentrer dans la Black Lodge. Enfin, on a l'impression que le livre est lui aussi émis depuis la Black Lodge. Enfin, réussir ce qu'il fait à la dernière partie du livre, c'est-à-dire nous expliquer Twin Peaks saison 3 à partir de What's Going On de Marvin Gaye.
C'est un coup de génie.
Bravo,
quoi.
j'en redemande. Enfin, je veux ça, quoi.
Puisque la question, alors que les annonces haut-parleurs nous disent que le salon du livre va bientôt fermer, la question de Twin Peaks, c'est qui a tué le monde? Et quand il explique plus loin, parce qu'il y a tout un développement sur le serial killer, quand il dit dans une des toutes dernières pages, quand le sage montre l'état du monde, l'idiot regarde le serial killer, on peut s'arrêter très longtemps sur une phrase comme ça, Florence Colombani.
Oui, je voudrais dire que cela dit, parce que nos auditeurs peuvent s'effrayer de ce que nous disons aussi sur ce livre. C'est-à-dire que oui, il y a la multiplicité des références et il y a des choses très inattendues, mais il revient aussi à des fondamentaux. Par exemple, il consacre de très belles pages, des pages vraiment importantes, je pense, pour comprendre Twin Peaks, à Laura Preminger, qui est
Buffy
évidemment
contre les vampires.
Et à Buffy contre les vampires.
Non, mais c'est pour dire, voilà, non, mais c'est très important, c'est pas grand.
Non, mais Laura Preminger, qui est la source, enfin, l'origine du prénom de Laura Palmer, l'idée du personnage qui revient d'entre les morts, la figure du détective, la figure du psy, tous les fondamentaux de Twin Peaks, l'oiseau qui parle, hein, tous les fondamentaux sont dans le film de Preminger. Et donc, c'est important aussi de dire qu'on y trouvera aussi des choses de base pour aborder l'œuvre de Lynch.
Je voulais rajouter une chose, c'est que j'ai acheté le livre en librairie à début janvier lorsqu'il est sorti, voilà, j'ai eu envie de ça. Et s'il n'y avait pas eu la dispute ce week-end, je retardais de le lire. Je voulais d'abord refaire le chemin, c'est-à-dire refaire les trois saisons de Twin Peaks, parce que les deux premières, il y a très longtemps, maintenant ça fait 4 ans que je ne les ai pas revues. La troisième, ça va faire 2 ans. Je me suis dit, peut-être qu'il faut que je replonge dans Twin Peaks. Pas le temps, cette semaine, il faut faire ça. Et je me suis baladé dans ce livre-là, en ayant finalement une mémoire très très lointaine et diffuse. Donc c'est dire aussi finalement la capacité de Pacôme Tillemant de nous donner la main, de rentrer dans ce monde qui est complètement fou, avec des références qui peuvent être très pointues ou au contraire très très, complètement pop, mais avec un sens de la clarté et finalement une façon de gambader dans ce terrain-là, qui fait qu'on peut même lire le livre sans se souvenir totalement de la série. Ce qui est très très rare finalement dans les livres de cinéma. Enfin vraiment, donc il y a... Un chapeau.
Je confirme aussi, parce que je voudrais faire ce même chemin. Je n'ai vu que 3 fois ou 4 fois les 2 premières saisons et seulement 2 la 3e. Donc il va falloir trouver une trentaine d'heures. Non, on peut plus que ça maintenant. C'était 24 heures les 2 premières saisons. Se rajoute presque 18.
Et on pourra relire le livre de Pacôme Tillemant, quand on va revoir le film.
Évidemment, on va faire ça. Bon, vous avez compris qu'on vous conseille très chaleureusement ces 3 essais sur Twin Peaks de Pacôme Tillemant, publiés au PUF. À Avant de conclure, d'abord, un appel à candidature, puisque comme chaque année, le prix cinéma des étudiants en France Culture est lancé, donc les étudiants peuvent soutenir un film indépendant en intégrant le jury du prix France Culture Cinéma 2019. Il y a 5 films présélectionnés à visionner, bien sûr, et puis un vote en ligne pour décerner ce prix à votre lauréat lors du Festival de Cannes. Il faut, avant le 31 mars, minuit, il faut s'inscrire en écrivant à com.radiofrance.com et voilà, vous serez sélectionné, vous verrez les films et vous pourrez voter cette année 5 films sélectionnés, Mademoiselle de Jonquière d'Emmanuel Mouret, Sunset de la Snow Nemesh, et j'oublie les 3 autres qui sont pas dans ma petite voix, c'est un peu dommage. Ah si, Les Estivants, pardon, de Valéria Brunetilleschi. Peu importe si l'histoire nous considère comme des barbares de Radoujoud ou, et encore, On ment toujours à ceux qu'on aime, de Sandrine Dumas. Voilà, participez comme France Culture à radiofrance.com. C'est l'heure du jeu, de la dispute. Joséphine Dumoulin, je vous ai vu, vous êtes arrivé derrière moi, mais ici au Salon du Livre. On va aller vite ce soir, on fait gagner des invitations pour découvrir les 2 films de la compétition internationale de cinéma du réel, David and the Kingdom et La Strada per le Montagne. C'est à voir samedi 23 mars. À 16h50 au centre Pompidou à Paris. Joséphine, quelle est la question? Alors, il faut qu'on ouvre votre micro. Ça y est, on essaye.
Quel documentaire, primé en 2017 au Festival du cinéma du réel, raconte la destruction d'un quartier pauvre en Chine?
Si vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez avec vos coordonnées postales à auditeurfc@radiofrance.com. Les informations sur cette émission sont à retrouver sur franceculture.fr à la page de la dispute. Pas de dispute lundi soir, mais un grand débat entre Emmanuel Macron et 65 intellectuels animé par Guillaume Herner. C'est un rendez-vous exceptionnel sur l'antenne de France Culture à 18h15. Donc la prochaine dispute, c'est mardi à 19h. Une émission consacrée à la musique avec Pascaline Potvin, Joseph Gosne et Olivier Lam. On parlera de When I Get Home de Solange, du nouveau Malik Joji et du nouveau Matt Moss.